en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour. On croyait tout connaître de notre système nerveux et pourtant une équipe de chercheurs vient de démontrer qu'il nous réservait encore bien nombre de surprises. Lors de cette 4e édition proposée par l'Académie des sciences, 6 jeunes chercheurs sont venus présenter leurs travaux sur les grandes avancées scientifiques françaises en biologie. Canal Academy en a sélectionné 2. Voici donc le 2e exposé que nous vous présentons après celui sur les cellules souches. Vous allez ainsi écouter Laurent Gros, chercheur à l'Université de Bordeaux 2 et son directeur de recherche, parler d'un trafic insoupçonné au niveau des récepteurs neuronaux. Récepteurs qui jouent un rôle essentiel lors d'une activation neuronale soutenue comme le stress. Rappelons que le transfert de l'information dans le système nerveux se fait au niveau des synapses. Synapses dont la fonction est de permettre à des neurones de communiquer entre eux. La découverte de ce trafic est donc une grande avancée dans la recherche pour guérir plusieurs maladies neurologiques et psychiatriques comme la maladie d'Alzheimer ou la schizophrénie. Canal Academy a suivi pour vous cette grande avancée. Écoutez l'exposé que ces deux chercheurs ont présenté à l'Institut de France le 9 juin 2009.
Donc on travaille ensemble en fait avec Laurent depuis plusieurs années. On s'intéresse d'une manière générale aux mécanismes de régulation du transfert de l'information dans le système nerveux. Et donc Laurent va vous présenter des résultats récents qu'on vient d'obtenir qui mettent en évidence effectivement un trafic tout à fait insoupçonné des récepteurs de neurotransmetteurs et surtout des nouvelles fonctions pour ce trafic dans le transfert de l'information. Donc je vais vous faire juste une petite présentation très brève pour recadrer un petit peu la question. Donc comme vous savez tous, bien sûr, le transfert de l'information au niveau du système nerveux, ça se fait au niveau des synapses. Ces synapses, ce sont les zones de communication entre neurones, les zones de jonction. C'est un petit organelle spécialisé qui est absolument fascinant. D'abord parce qu'il a une fonction extrêmement importante, qui est effectivement la communication entre neurones. Et puis il présente un certain nombre de particularités extrêmement intéressantes. D'abord, il y en a un très grand nombre, des milliards de milliards dans le cerveau. Ensuite, c'est un organe qui est tout petit, qui fait à peu près un micron. Ce que vous avez ici, c'est un neurone qui est en culture, qui exprime une protéine fluorescente qui permet de marquer toutes ces synapses. Et toutes ces petites boules représentent une synapse, donc sur un neurone qu'on appelle postsynaptique qui reçoit l'information. En fait, dans un tel réseau, il y a des neurones postsynaptiques et des neurones présynaptiques qui envoient l'information. Et la localisation d'une présynapse et d'une postsynapse au niveau de la microscopie optique ne peut pas être différenciée puisqu'on est dans des tailles d'organes qui sont de l'ordre du micron. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin, pour étudier cet organe, d'utiliser un certain nombre de technologies qu'on vous présentera un petit peu plus tard. Donc ces synapses, leur mode de fonctionnement est connu depuis des dizaines d'années. Donc un élément présynaptique qui contient des vésicules remplies de neurotransmetteurs. Et quand il y a un potentiel d'action qui arrive dans la cellule présynaptique, ces vésicules de neurotransmetteurs fusionnent avec la membrane présynaptique, libèrent du neurotransmetteur dans ce qu'on appelle la fente synaptique, qui fait quelques dizaines de nanomètres. Et ce neurotransmetteur vient activer des récepteurs sur la cellule postsynaptique et ça permet de générer des courants électriques et on a ainsi transfert de l'information entre une cellule présynaptique et une cellule postsynaptique. Donc ce fonctionnement de la synapse est connu depuis plusieurs dizaines d'années et ce qui a beaucoup intéressé les neurobiologistes depuis, on va dire, une quinzaine d'années, c'est la compréhension de l'organisation de ces différents éléments moléculaires qui sont responsables de cette transmission d'information. En particulier, au niveau de ce qu'on appelle la zone postsynaptique, la densité postsynaptique, on sait que c'est là que les récepteurs sont concentrés. Et des travaux de génétique, de biologie moléculaire et de biochimie ont permis de caractériser tout un ensemble de complexes qui comprennent d'une part des récepteurs de neurotransmetteurs et d'autre part des protéines qui permettent l'ancrage de ces récepteurs dans la synapse. Et donc on arrive maintenant avec cette vue qui est que cette synapse est un gigantesque complexe macromoléculaire d'à peu près un gigadalton qui comprend plusieurs centaines de molécules qui sont organisées, structurées de manière extrêmement précise. En parallèle de cette caractérisation moléculaire des différents éléments qui comportent la synapse, là aussi, depuis une vingtaine d'années, on s'est rendu compte qu'en fait, les propriétés de la transmission synaptique ne sont pas du tout stables, mais sont extrêmement plastiques. et donc en particulier par les travaux pionniers, par exemple de Bisselomo il y a une trentaine d'années, ont mis en évidence que ce qu'on appelle l'efficacité de la transmission synaptique, c'est-à-dire quelle est la réponse donnée à un stimulus, cette efficacité de la transmission synaptique peut être soit augmentée, soit diminuée par des systèmes de stimulation divers et variés, sans rentrer dans le détail, des processus de potentiation à long terme ou des processus de dépression à long terme. Et ce qui est important, ce qui apparaît après quelques dizaines d'années de débats, c'est qu'effectivement, il semble que ces changements à long terme de la plasticité synaptique sous-tendent les processus de mémoire et d'apprentissage, d'une part, et que d'autre part, il apparaît de plus en plus que de nombreuses pathologies du cerveau découlent en fait de dysfonctionnement de ces synapses. Donc on se retrouve finalement avec une espèce de paradoxe, c'est comment est-ce qu'on peut réconcilier la précision et la complexité de l'organisation structurelle de ces synapses, comme on l'a vu sur la diapositive précédente, avec à la fois son extraordinaire plasticité, et c'est cette thématique qui nous intéresse depuis un moment. Alors, l'efficacité de cette transmission synaptique, elle est due à tout un ensemble de paramètres, qu'on appelle présynaptiques, qui sont dus principalement à l'efficacité de libération de ce neurotransmetteur, on n'en parlera pas aujourd'hui, et ils sont dus aussi à tout un ensemble de paramètres postsynaptiques qui sont dus principalement, et ça on le sait depuis une dizaine d'années, au contrôle du nombre de récepteurs qui sont présents dans la densité postsynaptique. En particulier, ce qui a été démontré, c'est qu'une augmentation du nombre de récepteurs sous-tend des processus de potentiation de la transmission synaptique, tandis que par contre, une diminution du nombre de récepteurs sous-tend des processus de dépression synaptique. Donc il paraissait extrêmement important de comprendre quels étaient les mécanismes moléculaires qui étaient responsables de ces variations du nombre de récepteurs dans la densité postsynaptique, puisque effectivement ces variations du nombre de récepteurs très probablement sous-tendent les processus de plasticité synaptique et donc les processus de mémoire et d'apprentissage. Donc c'est à ce stade-là qu'on a commencé ce projet, il y a une petite dizaine d'années, et on a fait une première constatation, c'est qu'en fait les récepteurs, ils ne sont pas simplement présents dans la densité postsynaptique, comme on l'a cru au départ, mais ils sont présents aussi en nombre relativement important dans la membrane extrasynaptique. D'où nous est venue l'idée que peut-être, en fait, il y avait des échanges entre les récepteurs qui étaient présents dans la synapse et les récepteurs qui étaient présents dans la membrane extrasynaptique. Et on a donc décidé d'étudier cette hypothèse. Donc, pour étudier cette hypothèse, il fallait pouvoir avoir des outils adéquats. En effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette synapse est tout petite. Elle est en dessous de la limite de diffraction qui peut être détectée par des microscopes optiques. Et donc, il a fallu développer tout un ensemble de technologies d'abord qui nous ont permis de regarder comment est-ce que ces récepteurs se déplacent dans la membrane, première chose, pour pouvoir ensuite regarder quelles étaient les propriétés de ces mouvements et quelles pouvaient être éventuellement leur fonction dans la transmission synaptique. Et c'est ce que va vous présenter maintenant Laurent.
Merci. Donc d'abord, permettez-moi de renouveler nos remerciements à Mme Cossard et à l'ensemble de l'Académie pour l'invitation. Donc, comme l'a dit Daniel, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, on pourrait décrire la surface du neurone, à l'exception de la synapse, comme une terra incognita. En fait, très peu de processus de régulation avaient été décrits à cet endroit-là. Et donc, l'hypothèse que nous avions émise à ce moment-là, c'était que les récepteurs qui sont à l'extérieur de la synapse peuvent jouer un rôle très important dans la régulation de leur nombre au niveau de la synapse, mais de façon plus générale, de la régulation des réseaux neuronaux et de l'activité neuronale. Donc pour développer ou pour mesurer la diffusion des récepteurs de surface, eh bien on a développé et utilisé l'approche que l'on décrit de suivi de nanoparticules uniques. Alors ça consiste à utiliser des nanoparticules, comme vous voyez ici, qui font quelques nanomètres de diamètre. Ces nanoparticules peuvent être détectées de façon optique. Et le gros avantage de ces nanoparticules, c'est qu'elles peuvent être détectées avec une précision de pointée d'une trentaine de nanomètres. Alors ça veut tout simplement dire que l'on est capable de dire si cet objet, détecté de façon optique, s'est déplacé d'une trentaine de nanomètres dans une quelconque direction. Donc l'application au niveau de nos préparations neuronales a donc consisté à essayer de marquer un récepteur à la surface du neurone et de le suivre au cours du temps. Donc pour ça, on a utilisé un petit artifice via un anticorps qui détecte un épitope extracellulaire du récepteur. Et cet anticorps est couplé avec une nanoparticule, c'est important. Je n'entrerai pas dans le détail, mais il est très important d'avoir une nanoparticule pour être sûr que l'on suit un complexe unique à la fois. Et donc on a ce complexe-là que l'on met en présence de neurones. Et on peut suivre au cours du temps le trafic, s'il y a, du récepteur à la surface du neurone. Alors, qu'est-ce que ça donne lorsque l'on fait ça directement ? Eh bien, vous voyez ici des extensions dendritiques de neurones. En vert, les verts plus fluorescents correspondent à des zones synaptiques. Et les points rouges correspondent donc à des complexes de nanoparticules uniques couplés à un récepteur. Et donc, la première surprise qui en fait a émergé dans un travail datant des débuts des années 2000 est que les récepteurs à la surface d'un neurone sont tout sauf immobile. Comme vous pouvez voir, les récepteurs diffusent, c'est un film à temps réel. Il y a des récepteurs qui diffusent très rapidement et qui explorent de grandes zones. Il y a des récepteurs au niveau des synapses qui sont immobiles un certain temps, alors qu'il y a d'autres récepteurs qui passent ou qui explorent une zone synaptique et puis qui en ressortent et qui explorent le reste de la membrane. Lorsque l'on regarde de façon plus précise la trajectoire de ces récepteurs, donc à l'extérieur d'une synapse, on s'est donc rendu compte que les récepteurs explorent de grandes zones à la surface du neurone. Et lorsque l'on regarde plus précisément au niveau des synapses, on s'est rendu compte de façon assez surprenante qu'il y avait une hétérogénéité de comportement avec, dans certaines synapses, des récepteurs qui sont immobilisés, donc assez fixes pour un certain temps, donc qui correspondaient plus à l'idée que l'on pouvait se faire de la synapse avec un pool de récepteurs assez immobiles. Une petite proportion de synapses sont au niveau des récepteurs qui passent et qui ne s'arrêtent quasiment pas. Et de façon donc très intéressante, à peu près un peu moins de la moitié des synapses observées à un temps donné ont des récepteurs qui diffusent mais qui restent confinés dans l'espace synaptique. Donc on s'est évidemment posé la question du rôle et de la fonction de ce mouvement rapide de récepteurs au niveau des synapses. Donc pour ça, il nous a fallu développer une petite approche artificielle expérimentale pour pouvoir agir sur le trafic des récepteurs. Et donc pour ça, on a simplement utilisé en fait deux couches d'anticorps. Une première couche d'anticorps, donc d'anticorps primaires, qui vont détecter des épitopes, qui sont des épitopes extracellulaires présents à la surface des neurones, et évidemment avec une population de récepteurs qui nous intéresse. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des anticorps secondaires qui vont donc se lier aux anticorps primaires. Et on s'est rendu compte de façon très intéressante, c'est que très rapidement, il y avait un maillage qui se formait à la surface du neurone. Et ce maillage avait un effet très important sur la diffusion des récepteurs de surface. Donc vous voyez, typiquement, on passe d'une population d'environ 25% de récepteurs immobiles en conditions contrôle à une population de plus de 80% en conditions de maillage avec des anticorps. Donc, fort de cette approche expérimentale, nous sommes d'abord intéressés au rôle et au rôle de la diffusion rapide des récepteurs au niveau de la plasticité dite à court terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simplement qu'une synapse, lorsqu'elle est soumise à un train de stimulation, donc il y a plusieurs potentiels d'action qui arrivent et qui permettent la libération du neurotransmetteur, donc l'activation des récepteurs, eh bien cette synapse va moduler ses réponses en fonction du train d'activation. Vous voyez, typiquement, lorsqu'il y a une première stimulation, donc on enregistre une réponse synaptique ici, et lorsqu'il y a une deuxième stimulation avec un temps d'intervalle assez proche, on va dire des dizaines de millisecondes, eh bien la deuxième réponse est souvent modifiée, soit ici, dans ce cas-là, réduite. Et la plupart des mécanismes qui avaient été proposés pour expliquer ces processus de plasticité synaptique à court terme étaient des processus présynaptiques qui, grosso modo, modulaient la probabilité de libération du neurotransmetteur ou la quantité de neurotransmetteurs libérés. Eh bien, ce que nous avons observé de façon assez surprenante, c'est que lorsque l'on interfère avec le trafic de surface des récepteurs au niveau de la synapse, l'on module extrêmement rapidement d'une part et de façon très significative les propriétés de plasticité synaptique de la synapse. Nous avons identifié les cibles, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. En fait, notre hypothèse, c'est que les récepteurs qui ont été activés une première fois par le glutamate vont entrer pendant un certain laps de temps dans un état dit désensibilisé, c'est-à-dire qu'ils ne répondront pas à une deuxième stimulation du glutamate. Si on est dans des conditions contrôle, vous avez un échange rapide et une redistribution des récepteurs qui se fait au niveau de la synapse. Et en fait, l'idée, c'est que des récepteurs qui sont désensibilisés vont diffuser à l'extérieur ou vont rester dans un espace périsynaptique, tandis que des récepteurs dits naïfs pourront venir et prendre leur place en quelque sorte au niveau de la synapse. Lorsque l'on empêche ce trafic de récepteurs, eh bien, on se retrouve en fait avec une plus grande proportion de récepteurs désensibilisés au niveau de la synapse, ce qui empêche une adaptation et une certaine plasticité de la synapse à court terme. Alors évidemment, l'idée ou ce qui nous a vraiment interpellés à ce moment-là, c'était d'essayer de connaître les mécanismes qui allaient permettre de réguler le trafic de ces récepteurs, puisqu'on voit qu'ils ont un rôle très important dans la plasticité de la synapse. Très schématiquement, on a exploré différentes voies et il semble donc que en fait, chaque voie que l'on a explorée présente un intérêt particulier. Donc on est vraisemblablement au tout début de la compréhension de ces mécanismes-là. Que d'une part, lorsque l'on regarde la diffusion de récepteurs d'une même famille, donc typiquement des récepteurs de la famille NMDA, sont des récepteurs glutamatergiques inotropiques, mais qui possèdent simplement des sous-unités différentes, on s'aperçoit que deux types de récepteurs ne diffusent pas de la même façon et ne sont pas retenus de la même façon au niveau des synapses. Et si l'on regarde d'autres types de familles de récepteurs, avec aussi des variations au niveau des compositions sous-unitaires, on se rend compte que bien souvent, une sous-unité particulière va conférer des propriétés de diffusion particulières à un récepteur. De plus, on a émis l'hypothèse qu'on sait que le récepteur, lorsqu'il entre dans la synapse, eh bien, en fait, il va rentrer dans une zone de piégeage où il peut interagir soit avec des protéines d'échafaudage qu'on peut caractériser de protéines d'ancrage du récepteur. Et on sait aussi que la matrice extracellulaire joue un rôle important dans la rétention et la distribution des récepteurs. Et en fait, il s'avère que ces deux grandes voies de régulation, en effet, jouent un rôle, puisque si l'on empêche, par exemple, l'ancrage des récepteurs glutamatergiques de type AMPA au niveau de la synapse, on s'en compte d'abord dans les conditions contrôle que le récepteur diffuse, et lorsqu'il rentre dans la synapse, il est confiné ou immobilisé un certain temps. Lorsque l'on bloque l'ancrage, eh bien, on n'observe absolument plus de rétention et de confinement du récepteur au niveau de la synapse. Donc clairement, cet ancrage joue un rôle important dans la rétention du récepteur. Au niveau de la matrice extracellulaire, si par exemple on rajoute des protéines de la matrice extracellulaire ou si on détruit en partie la matrice extracellulaire, on est capable très rapidement de modifier la diffusion des récepteurs à la surface du neurone. Ce qui clairement indique que ces deux voies de régulation peuvent jouer à la fois des rôles complémentaires ou des rôles synergistes dans certains cas. Donc ensuite, la deuxième grande question que l'on s'est posée, c'est est-ce que ces processus de diffusion ou de redistribution de surface jouent un rôle dans l'adaptation à plus long terme de la transmission synaptique et des formes de plasticité. Daniel a mentionné l'importance dans des processus, par exemple, de mémorisation d'apprentissage. Et on a choisi en fait un paradigme physiologique particulier, mais qui nous a interpellés pour plusieurs raisons. C'est la réponse d'un organisme à un stress. Typiquement, en présence d'un stress aigu, il va y avoir libération d'hormones de stress, comme la corticostérone par exemple, mais d'autres types d'hormones aussi. Et l'on sait que quelques minutes après un stress, la plasticité synaptique est facilitée dans de nombreuses zones du cerveau et dans certaines populations synaptiques. Alors que 2 heures après cet événement stressant aigu, on a un effet opposé, c'est-à-dire que la plasticité synaptique est bloquée. Et ce qui avait été montré par certains groupes, c'est que la quantité de récepteurs dans ce cas-là, récepteurs de type glutamatergique, est augmentée et en quelque sorte sature la synapse, l'empêchant donc de pouvoir moduler son nombre de récepteurs et donc de bloquer la plasticité synaptique. Donc on s'est intéressé à ces deux moments puisqu'on avait un effet bidirectionnel de régulation d'un effet de plasticité synaptique. Et donc à court terme, ce que l'on a pu observer, c'est que lorsque l'on met le neurone en présence d'une hormone de stress, la corticostérone, eh bien on voit que le récepteur se met à diffuser beaucoup plus et à explorer de plus grandes zones à la surface du neurone. Et c'est clairement ce que vous voyez ici, avec une trajectoire à temps zéro. Rajout de corticostérone, quelques minutes après la présence de corticostérone, on voit une redistribution très rapide, une augmentation de la diffusion du récepteur. En fait, ce que nous avons pu montrer, c'est que cette redistribution rapide et cette augmentation du trafic des récepteurs jouent un rôle clé dans la facilitation de la plasticité synaptique. Et l'hypothèse que l'on fait, c'est que cette augmentation de la diffusion des récepteurs ne module pas en tant que telle la transmission synaptique, mais permet en quelque sorte au système d'être dans un état d'alerte, c'est-à-dire que les récepteurs sont plus diffusifs et pourront être piégés avec une plus grande efficacité si le besoin est au niveau de la synapse. Et l'autre élément important que nous avons montré dans cette étude, c'est que de façon totalement inattendue, cet effet passe par un récepteur au corticostéroïde qui serait situé au niveau de la membrane et non pas au niveau nucléaire comme cela avait été proposé. À plus long terme, donc, je vous dis qu'on savait que 2 heures après un stress, par exemple chez le rat, on a une augmentation du nombre de récepteurs au niveau de la synapse et que cet effet bloque la plasticité synaptique. Donc ce que l'on a observé, c'est que toujours 2 heures après un stress, on a une augmentation de la diffusion des récepteurs, qui est aussi une augmentation tout à fait significative. Donc on s'est demandé s'il y avait un lien entre cet effet d'augmentation de la diffusion et cet effet d'augmentation du nombre de récepteurs au niveau de la synapse. Et la réponse est oui, puisque si dans le laps de temps de 2 heures, donc on applique le même protocole que je vous ai présenté précédemment, qui est le protocole de maillage des récepteurs. Donc on intervient et on diminue de façon très importante la diffusion des récepteurs. Et bien en fait, on prévient, on bloque l'augmentation du nombre de récepteurs au niveau de la synapse. Et donc on rétablit en quelque sorte un système plastique dans cet état-là. Donc clairement, ceci montre que la redistribution rapide au niveau de la surface et la rétention des récepteurs, ou l'augmentation du nombre de récepteurs au niveau de la synapse, passe par un effet via la diffusion des récepteurs de surface. Donc, en conclusion, on voulait mettre ces deux petits schémas pour faire un peu le lien entre les premières descriptions absolument magnifiques de Ramón y Cajal au début du XXe siècle, qui a donc décrit l'architecture et les différentes connexions au niveau du cerveau. Depuis, il y a évidemment de nombreuses études et de nombreuses découvertes quant à le fonctionnement du cerveau. On sait donc que la plasticité et l'adaptation du cerveau étaient quelque chose d'absolument clé. Donc, des travaux récents montrent qu'il faut rajouter un niveau de complexité à la compréhension de la dynamique de la communication entre les neurones, puisque à la surface même d'un neurone, il y a une redistribution rapide des récepteurs, et que cette redistribution rapide, cette dynamique, qui peut être régulée à différents mécanismes, contrôle des processus clés pour à la fois l'apprentissage et tout type d'adaptation cérébrale, que sont la plasticité synaptique à court terme et à long terme. Donc évidemment, les perspectives, elles sont diverses, on est absolument au début de la compréhension de ces mécanismes. Évidemment, l'un des projets serait de pouvoir imager le mouvement de récepteurs, ou voire de populations de récepteurs, chez des animaux vivants, et corréler ça à différents types de rythmes cérébraux et différents types d'activités cognitives. Et de plus, il émerge de cette nouvelle voie de régulation que de nouvelles cibles d'action pour la régulation de transmission nerveuse en conditions physiologiques et surtout pathologiques pourraient être intéressantes, puisque jusqu'alors, la plupart des traitements qui peuvent être utilisés dans des pathologies neurologiques ou psychiatriques utilisent ou ont comme cible des récepteurs, mais ont pour cible principalement l'activation de ces récepteurs. Ce que suggère ce travail, c'est qu'on peut imaginer de nouvelles cibles d'action de façon plus spécifique qui permettraient de réguler et de contrôler la dynamique et la redistribution des récepteurs à la surface des neurones. Donc pour finir, je voudrais absolument remercier nos collègues physiciens du CPMOH de l'Université de Bordeaux, avec qui nous avons beaucoup collaboré pour la mise en place de l'approche de suivi de nanoparticules uniques, en particulier Laurent Cognier et Ibrahim Lounis. Notre collègue Francis Chaouloff de l'INSERM à Bordeaux, avec qui nous avons travaillé pour la compréhension du trafic de surface des récepteurs glutamatergiques en conditions de stress. Et enfin, nos collaborateurs Anne Stephenson à Londres, Rick Gagné à Baltimore et Barbara Imperiali à Boston, qui ont contribué aussi de façon très significative au développement d'outils pertinents. Et je vous remercie pour votre attention.
Vous venez d'écouter Laurent Gros, chercheur à l'Université de Bordeaux 2. Il s'exprimait sur le trafic des récepteurs neuronaux dans le cadre des grandes avancées scientifiques françaises en biologie, organisées par l'Académie des sciences depuis 2005. Vous pouvez également télécharger l'intervention de Vilma Barocca, doctorante au CEA de Fontenay-aux-Roses, qui évoque pour sa part la régénération des cellules souches germinales à partir de leurs cellules filles. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.